Mémoire et paysage. Une série de 66 entretiens de Sylvain Faure avec André Tuboeuf. Aujourd'hui, épisode 63, Elisabeth Schwarzkopf et Walter Legg.
Même alors des gens, je dirais la première fois où nous avons eu Schwarzkopf à Strasbourg, Schwarzkopf qui à peu près entre toutes enfin, me paraissait inaccessible par essence, enfin, dire aucune chance qu'elle chante à Strasbourg au théâtre, enfin, qu'elle soit là pour un bout de temps, et même enfin, d'autres, je dirais que d'autres, on pouvait se dire que les gens importants ne vont pas s'en occuper. Même Régine Crespin, je veux dire, les banquiers de Strasbourg ou les ambassadeurs présents à Strasbourg pour le Conseil de l'Europe ne savaient pas à l'époque qui était Régine Crespin. Bon. Même si on savait à Bayreuth ou à Milan qui elle était. Schwarzkopf, c'était différent. C'était déjà une espèce de concept quand elle est venue pour la première fois à Strasbourg pour le festival. J'ai trouvé une approche, parce que je connaissais Jacqueline Bonneau, qui était sa pianiste, et je me suis dit, je vais aller chercher à la gare. Ça, enfin, voilà, ça fait une entrée en matière, et ça fait déjà un contact physique. Et puis, j'en ai profité pour aller la chercher le lendemain à la répétition, et la reconduire à son hôtel, voilà, pour lui faire le guide. C'est des choses qu'on peut offrir à une dame une fois qu'on a été présenté. J'ai essayé, elle a failli accepter, au terme de sa promenade, de venir prendre une tasse de café à la maison. C'est très allemand. Pour proposer une tasse de café, les Allemands ne s'en offensent pas du tout, alors qu'on proposerait ça à une prima donna française, elle dirait comment, mais quoi, seulement un café, puis quoi, en cure-dent. Mais elle, vraiment, elle aurait marché tout à fait, parce qu'elle trouvait ma compagnie dans la rue comme ça, pour la raccompagner chez elle, tout à fait agréable et déserte, voilà là. Mais au dernier moment, non, elle a reculé devant les étages, et puis voilà, elle avait allé se reposer, donc voilà, je l'ai raccompagnée chez elle. Mais elle a failli monter. Mais enfin, le lendemain, après le concert du festival, elle était invitée par l'ambassadeur d'Autriche, je veux dire, et Jacqueline aussi. Et le mari de Jacqueline, par extension, ce qui m'en rendait fou furieux, parce que je lui disais, qu'est-ce qu'il a à faire à aller dîner avec Schwarzkopf, alors que moi, je reste dans mon coin. Bon, et elle est venue, elle n'est pas revenue ensuite d'un bout de temps, mais elle est revenue ensuite au festival. Des années plus tard, ça devait être en 68 ou quelque chose comme ça. Donc je ne dis pas de bêtises. La vraie date me reviendra, mais 74 peut-être. Elle a donné un concert au festival, un concert de musique autrichienne. Et là, c'est tombé en même temps qu'une foire une foire qui se tenait à Strasbourg, une foire européenne. Et par conséquent, tous les municipaux étaient mobilisés à un point extrême et avaient évidemment leurs priorités. Et c'est Germain Muller qui m'a pris par... Germain, qui était l'adjoint au maire pour la culture et le grand chansonnier strasbourgeois, qui m'a pris par la main et qui lui dit « André, vous pouvez nous rendre un service, nous avons Schwarzkopf comme sur les bras. Alors, est-ce que vous pouvez l'amener au restaurant ce soir, à nos frais, bien entendu, je veux dire, parce que nous ne savons pas quoi en faire, nous avons la foire. » Bon, je lui dis « Bon, ben, très bien. » Alors, la merveille était qu'il y avait l'aigle. La merveille était qu'il y avait Legg. Et qu'évidemment, amener Schwarzkopf plus Legg à la Bourse aux Vins, ça crée de tout autres conditions de fonctionnement, simplement parce que si Elisabeth avait été seule, elle aurait été, comment dirais-je, aimable et extraordinairement... sachant admirablement vivre comme elle était en toutes circonstances, mais en vérité n'en ayant rien à foutre, n'ayant qu'une idée, c'est d'aller se coucher le plus vite possible, après avoir fait la politesse qu'elle devait aux gens d'accepter leur dîner, point barre. Et comme c'était au bistrot et qu'elle venait de chanter, elle pouvait même se dire, avant le dessert, écoutez, mon hôtel est à côté, je rentre. Mais Legg s'ennuyait. Et quand Legg était avec elle, c'était pour que ça le distrait de son ennui. Et par conséquent, avec l'aigle, si ça commençait à 11h, ça finissait à 3h. Et Elisabeth tenait parfaitement le coup, par amour pour lui. Et lui parlait de lui, et non pas d'elle. Et était enchantée de tomber, d'abord sur deux personnes qui lui parlaient un anglais convenable, celui de Marie-Josée étant alors vraiment « the king's English », ce qui n'est pas du tout le mien. Moi, je n'ai pas été élevé à Westgate, aux oiseaux. Donc, il était absolument charmé d'avoir une jeune femme lui parler un anglais absolument divin et d'avoir un couple, enfin, qui aimait ça, qui était content d'être là avec eux, qui avait tout son temps. Et alors, l'aigle qui parle de tout, enfin, de son métier, de ce qui se passait avant, d'Yvette Guilbert, si ça lui passe par la tête, parce qu'après tout, on est en France, et il trouve en face de lui des gens qui savent de quoi il est question. Enchantement absolu, je dirais. Alors, début et fondation de quelque chose qui a été bien sûr beaucoup plus intérieur et beaucoup plus intime, je dirais, mais à cause de l'aigle. Et le fait est que, peu de temps après, nous allions toujours en vacances en Haute-Savoie, près de Douvaine, qui était tout près de Genève, et les legs, à ce moment-là, avaient leur maison qui était au petit port, donc à Nières, le petit port au bord du lac, à 5 km à vol d'oiseau de chez nous. Et on s'était promis de se voir en septembre, que nous irions les voir. Walter nous avait absolument invités à aller les voir, by all means, sans aucune faute, quand vous serez là-bas. Et il s'est passé ceci, que Elisabeth a eu un concert tout à fait imprévu qu'elle est allée faire sur la côte basque. C'est-à-dire qu'aux dates où nous pouvons y aller, elle n'était pas là. Et nous n'avons pas hésité une demi-seconde à aller voir Walter seul, qui nous a eu une reconnaissance absolument éternelle, parce qu'il s'ennuyait comme un rat. Lui, vraiment, lui était vraiment un artiste qui n'avait plus. Lui était un artiste et un producteur démobilisé, donc un artiste et un travailleur démobilisé, plein d'histoires, plein de regrets, plein de frustrations, plein d'idées pour l'avenir, car il en avait encore, et comme cela se verra par la suite, et enchanté de pouvoir en parler avec des gens enfin, qui entraient dans son discours, enfin, et à qui les noms propres qu'il prononçait n'étaient pas étrangers, et qui pouvaient passer d'un sujet à un autre. C'est-à-dire, bon, des gens du monde, enfin, quand on dit des gens du monde, on s'imagine que c'est simplement des mondains qui vivent toute leur vie en habits et en robe du soir. Mais c'est pas ça, les gens du monde. Les gens du monde, c'est des gens qui savent se tenir dans le monde et qui savent faire la conversation et éventuellement boire du thé ou du whisky avec quelqu'un d'autre. Et Walter nous a gardés tous les deux seuls jusqu'à 2h30 ou 3h du matin. Il nous a torturés. Il nous a torturés et pressurés, mais il était enchanté, parce qu'il avait pu parler tout son sou et de tout pendant plusieurs heures. Et de ça, je veux dire qu'Elisabeth nous sera éternellement reconnaissante de nous être occupés de Walter en tant que c'était Walter, et qu'elle n'était même pas dans le jeu, elle était absente, et on y est allé pour lui. Alors ensuite, on organisera des concerts pour elle à Strasbourg, au moins deux fois, alors hors festival, et comme c'était surtout moi qui étais, efficient dans le fait de la faire venir, très naturellement, des choses se passaient ensuite à la maison, et alors à la maison, on soignait le dîner, pas pour elle, parce que Elisabeth s'en foutait complètement, on lui aurait donné une tartine de quelque chose, elle était contente, mais Walter, ça ne fallait pas lui promettre la moitié de la lune, parce que si on pouvait effectivement lui donner du faisan en chartreuse, et des choses qu'il aurait trouvées, enfin chez Véfour par exemple, il était absolument enchanté, et il tirait son cigare, enfin sans la moindre gêne, ça n'était pas du tout chose prohibée à l'écoute à l'époque, mais Elisabeth était très différente quand elle était seule, car une fois, elle est venue pour un concert sans que lui puisse venir, et donc elle ne se sentait pas du tout les mêmes obligations, parce qu'elle n'avait pas à le distraire, lui. Donc, elle, en politesse souveraine, enfin, elle savait très bien à qui elle avait affaire. Ce n'est pas à moi qu'elle le devait, mais elle le devait à ma femme. Et elle était, elle, alors, vraiment beaucoup trop... bien élevée, femme du monde, enfin, pour pouvoir négliger cette chose-là. Elle considérait très bien que la personne qui se donnait le plus de peine pendant le repas pour faire la conversation, c'était moi, mais la personne qui s'était donné toute la peine pour lui faire le repas, c'était elle. Et que le soin du repas l'empêchait de prendre les plaisirs de la conversation. Et elle le lui rendait par des attentions particulières. Je veux dire que... Voilà, on n'agit pas de la même manière avec tous les artistes, mais en réciproque, les artistes ne se comportent pas de la même manière, je veux dire, avec n'importe quel hôte. D'ailleurs, je veux dire, ils ont même dans une grande ville, ils ont si peu l'habitude d'avoir pour hôte des gens qui osent les recevoir chez eux, qui osent les recevoir chez eux-mêmes. Où que ce soit, c'est extrêmement peu habituel. À Paris, ça deviendrait presque impossible. Mais voilà, c'est ça qui nous a fait avec Legge pendant longtemps, jusqu'à sa mort, en 79, si je ne me trompe, et puis aller avec Elisabeth jusqu'à la fin, enfin des rapports très, vraiment extrêmement, extrêmement particuliers. Mais c'est plus difficile avec les chanteurs, et ça j'y reviens, parce que les chanteurs ont à se protéger. Même Elisabeth avait à se protéger, mais elle avait, elle, des recettes qui devaient être en fer inoxydable contre absolument tout, parce qu'elle n'était jamais, jamais, jamais malade. Elle s'exposait au courant d'air, elle répétait à pleine voix, elle n'arrêtait pas de bosser. Elle est toujours en train de déchiffrer quelque chose et de vérifier si ça lui allait dans la voix et dans l'intonation. Par conséquent, il fallait qu'elle le fasse à pleine voix. C'est absolument incroyable. J'ai fait un jour un papier sur elle dans Le Point où je l'appelais la Dame de Fer. Et effectivement, c'était la Dame de Fer. Beaucoup plus que la Thatcher, absolument.
Retrouvez tous les épisodes de ces entretiens sur la page kobuz.com/tubeuf.